Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast inédit des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles inédit, on est ravis de vous proposer cet épisode. Je vous explique, il y a quelques jours, je me suis rendu à la manifestation des sages-femmes, c'était à Paris, et parmi les sages-femmes que j'ai interrogées, il y avait Raphaël, sage-femme à Port-Royal.
Là, on parle d'accompagner les femmes et les enfants à l'aube de la vie, et c'est inenvisageable qu'on ne soit pas revalorisé et qu'on ne puisse pas le faire dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, après cette interview, Anna Roy est venue me voir et m'a dit « Vraiment, cette Raphaël, vraiment à Port-Royal, elles sont toutes extraordinaires, tu devrais aller les voir. » Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Raphaël et je lui ai dit « Voilà Raphaël, est-ce que ce serait possible que je vienne pour tourner un épisode du podcast des maternelles pour voir quelle est la réalité de votre métier, de votre si beau et si difficile métier ?» Raphaël m'a dit « Banco ». Je m'y suis donc rendu avec Irina Pascal et avec Charlotte Finet. Résultat, le voici, c'est parti, le podcast immergé à la maternité du Port-Royal à Paris. Donc, pour vous expliquer le contexte, on est le jeudi 14 octobre, il est un peu moins de midi, on est donc venu ici à Troyes avec Charlotte Finet qui filme pour l'émission La Maison des Maternelles et avec Irina qui a le grand plaisir de filmer là aussi pour les réseaux sociaux et aussi de faire un petit peu de la prise de son du podcast. Et je dis qu'elle a le grand plaisir parce que ça l'a fait stresser un petit peu la maternité. Voilà, donc on est arrivés ici tous les trois et en fait on va être beaucoup auprès de Raphaël qui est l'une des sages-femmes de Port-Royal qui va un petit peu nous expliquer comment tout fonctionne ici. Puis on va un peu lui coller au basque à Raphaël. Donc je vous présente Raphaël, ses collègues et puis la vie de la maternité. Dans cet épisode, c'est parti. Bonjour Raphaël Biot-Delaunay.
Bonjour Benjamin Muller.
Merci beaucoup de nous accueillir ici à Port-Royal pour donc le podcast des maternelles. Alors on va raconter ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, il y avait la grande manifestation des sages-femmes. On s'est rencontrés pendant la manif. Vous nous avez expliqué pourquoi vous étiez en grève et tout. Et on s'est dit, en fait, ce qui serait super, c'est de venir dans une maternité pour montrer la réalité de votre métier de sage-femme. Donc merci de nous accueillir ici. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire une petite présentation de la maternité de Port-Royal ? C'est une grosse maternité.
Oui, alors la maternité de Port-Royal à Paris, c'est une maternité de niveau 3, c'est-à-dire qu'elle accueille tous les profils de patientes, c'est-à-dire qu'elles aient une grossesse de déroulement normal ou qu'il y ait des pathologies associées ou une complication au cours de la grossesse. Ça veut aussi dire qu'elle prend en charge les bébés, les naissances prématurées à partir du moment où la prise en charge est possible, en fait.
Il y a 13 salles de naissance, ce qui est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. On fait plus de 5000 accouchements par an. Donc voilà, il faut que ça suive au niveau de la salle de naissance. Donc oui, c'est beaucoup.
Bon, on va entrer directement dans le vif du sujet. Les conditions de travail. Déjà, faisons un peu sage-femme pour les nuls. Vous, typiquement, aujourd'hui, là, il est à peu près midi quand on enregistre. Vous êtes là depuis 7 heures.
7h30, oui, tout à fait. On a des transmissions à 7h45. Donc là, on relevait l'équipe de nuit. Et on reste pendant 12 heures sur place. Sachant qu'il y a aussi le temps des transmissions. Donc parfois, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, c'est 12 heures de garde.
Est-ce qu'il y a assez de sage-femme à Port-Royal ?
Non, il n'y a pas assez de sages-femmes à Port-Royal, puisqu'il n'y a assez de sages-femmes nulle part, en fait, en ce moment, notamment à l'hôpital public.
Alors, ce qui est intéressant de raconter, c'est qu'à la fois, c'est de moins en moins attractif, votre profession, mais en plus, celles qui, par exemple, partent en retraite ou décident d'arrêter, tout simplement, ne sont pas remplacées. Vous n'arrivez pas à recruter.
Oui, voilà, ça, c'est vrai à l'hôpital public, en tout cas, qui est de moins en moins attractif, puisque les conditions de travail sont de plus en plus pénibles pour un salaire qui n'a absolument pas bougé depuis longtemps et qui ne correspond pas du tout à notre niveau d'études, qui lui aussi a évolué.
Alors je vais le faire de tête, c'est 1700 ou 1800 euros en début de carrière, et au maximum 2800, c'est ça ?
En début de carrière, oui, c'est ça, ça commence à 1700, quelque chose comme ça. Et en fin de carrière, autour de 2800 euros, mais je ne sais pas exactement. On n'en est pas encore là.
Bon, dans tous les cas, pas de quoi s'acheter une maison sur la côte avec ce salaire, alors que...
Pas du tout.
Pas du tout, malheureusement. Peut-être si on se cotise toutes, je ne sais pas.
On va tout acheter ensemble.
Alors que bon, le métier de sage-femme, c'est 5 années d'études. Pourquoi est-ce que certaines d'entre vous abandonnent le métier ?
Alors, je pense que certaines d'entre nous abandonnent le métier parce qu'on c'est un métier de vocation. Qu'on a beaucoup d'illusions en tête, je pense, au début de nos études, qu'on a sur le papier une responsabilité, enfin, sur le papier et dans les faits, une responsabilité médicale, beaucoup de responsabilités, puisqu'on a quand même deux vies en jeu à chaque fois qu'on travaille, qu'on est très disponible, puisqu'on travaille le jour, la nuit, les week-ends, les jours fériés, les vacances, puisque les naissances ne préviennent pas, évidemment, mais derrière, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, on a toujours le pied dans un statut qui n'est pas le nôtre. Et on a un salaire qui ne suit pas du tout nos compétences qui s'élargissent pour pallier parfois au manque de gynécologues de ville ou ce genre de choses.
Alors aujourd'hui, c'est un petit peu à part parce qu'on a de la chance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui sont en train d'accoucher. Mais dans les moments les plus chauds, est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment ça se passe quand, quand il manque de personnel ?
Alors concrètement, on court partout parce qu'on a 3 voire 4 patientes en charge par sage-femme, sachant qu'on parle évidemment d'une situation d'urgence, puisque l'accouchement est une situation d'urgence, qu'il faut être vigilante sur tous les plans. Et c'est des gardes où on court partout, on ne se parle pas entre nous, on ne va pas manger évidemment, on ne va pas aux toilettes, donc on s'use la santé à force énormément, étant donné qu'on a déjà un rythme décalé en jour, nuit, enfin voilà. C'est un peu ça, une garde chargée. C'est du stress permanent. Donc, on est d'accord dans les faits pour travailler le jour, la nuit, dans le stress. Mais il faut que derrière ça, on ait une revalorisation qui suive. Parce que c'est pas juste normal qu'on soit là.
Et il y a la question de la sécurité des femmes qui viennent accoucher. J'imagine quand vous êtes seule pour 4 femmes qui viennent accoucher, forcément, malgré toute la bonne volonté du monde, cette sécurité, elle n'est pas optimale.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on stresse aussi, c'est que nous, on ne veut pas traiter les femmes comme ça. C'est-à-dire que si je suis en train de faire l'accouchement d'une patiente, les 3 autres que je suis censée surveiller, je ne les surveille plus. Et mes collègues ne peuvent pas prendre le relais puisqu'elles-mêmes ont 3 patientes en charge. Donc c'est sûr que dans ces conditions-là, on met les femmes en danger. Et puis même au-delà d'un manque de surveillance médicale ou ce genre de choses, ça veut dire qu'on ne les entoure pas comme il faudrait.
Alix, là, on est devant la salle de naissance numéro 2. On va voir qui ? Qu'est-ce qu'on va voir ?
On va voir une de mes patientes. On va aller faire le point sur son travail, l'évolution, comment ça avance, comment elle se sent, tout ça.
On te suit.
Ça va ?
Ça va, mieux.
Mieux ? Depuis la réinjection d'anesthésiste, du coup ?
Ouais, et puis la chute de tension, ça va aussi.
Ok. Et là, du coup, vous avez plus du tout mal ?
Non, là, je sens plus rien. Okay. J'ai juste très, très, très soif.
Vous avez le droit de boire, hein ?
Ouais.
On va refaire le point, du coup ? Ok. Tranquillement, quand vous êtes prête, on va relever vos jambes. Je vous aide peut-être pour la gauche qui est un peu engourdie.
Très, très, très engourdie, là. Allez. Je suis surpose, là.
Ah oui.
Je sens
plus que tout à l'heure, là, du coup. Ok. Comme les autres fois, vous me dites quand je peux vous examiner.
Là, vu que je tente plus de contraction.
On y va ?
Ouais,
vous respirez bien ? Allez, soufflez. On y va doucement. Si je vous fais mal, vous m'arrêtez. Verdict.
Alors, la tête est très, très basse.
Ouais.
Donc ça, c'est, je pense que la position a bien aidé.
Ah, chouette.
Mais le col, il s'est pas trop plus ouvert.
On est toujours
5-6. Vous me dites, si je vous embête. Bon, alors déjà, il s'est mis dans la bonne position.
Ça, c'est bien. La tête est
pile vraiment dans le bon axe, pile pour bien descendre. Et on sent qu'il cherche à descendre. Probablement que, comme tout à l'heure, il manque peut-être une petite dynamique de contraction. Je pense que vos contractions, elles sont présentes. Il y en a, elles sont régulières, mais... elles sont peut-être pas assez efficaces.
Okay.
Alors, on va essayer de changer. De nouveau, on va se mettre d'un autre côté, tout ça.
Okay.
Mais là, du coup, vu que ça n'a pas trop bougé, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre l'ocytocine, l'hormone, pour renforcer un petit peu les contractions. Si ça vous va, hein. Là, on n'est pas dans le déclenchement, d'accord, du tout. Hein, et c'est pas du tout ce que vous avez vécu la première fois. C'est pas, là, on ne va pas faire ça pour un déclenchement. C'est, on fait ça parce que ça n'a pas beaucoup bougé, que ce petit loulou, il prend son temps, malgré ce qu'on lui dit à chaque heure.
Et c'est lui le responsable du
col. C'est plein de facteurs. C'est votre utérus, lui qui est dans votre utérus qui contracte, sa tête qui, avec les contractions, va appuyer sur le col. Et du coup, le col, grâce à cette force-là, va s'ouvrir. D'accord ? Mais donc, il n'y a pas que lui. Et ce n'est pas de sa faute si le travail n'avance pas beaucoup. Alors, juste une chose, c'est que vu que vous avez une cicatrice à l'utérus, avant de mettre le Syntocinon, il faut qu'on soit sûr de bien, bien enregistrer toutes les contractions. D'accord. Et donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on pose ce qu'on appelle une tocographie interne. On enregistre les contractions de l'intérieur, d'accord ? Je vais juste mettre un petit capteur que je vais glisser entre mes doigts, que je vais mettre le long de son dos. Et ça enregistre vraiment bien, bien les contractions. Ça justifie du coup le fait, enfin ça va justifier si jamais c'est le cas, le fait que les contractions sont un peu insuffisantes et donc il faut les renforcer. Et ça permet, quand il y a l'ocytocine, de vraiment bien surveiller ce qui se passe.
Ok.
Ça fait beaucoup de choses.
Ouais.
Mais vous êtes ok, je veux pas du tout vous forcer la main.
Non, c'est juste qu'on est pressé là. On a envie de ça.
Bah oui, bah nous aussi.
On est là
depuis 16h. Bah ouais, c'est ça. Ah, vous êtes arrivé à 16h hier.
Et mes contractions ont commencé à 6h du matin hier. Donc...
Oui, donc là.
Ça fait 2 jours quoi.
T'entends, petit bonhomme là ? On a envie de te voir tous, tout le monde là. Et pourtant, il y a du monde. Je pourrais vous refaire un petit café ou un petit thé si vous voulez après. Ok, je vais chercher ce qu'il me faut. Hein.
D'accord.
Je vous laisse du coup.
Ouais. Bonjour Sarah.
Bonjour Benjamin.
Tout va bien ?
Ça peut aller.
vous êtes arrivé. Donc là, il est à peu près 13h là. Vous êtes arrivé hier à
16h à peu près.
Donc ça fait un petit moment que vous êtes là.
Ouais.
Nous, on est ici pour suivre un peu le quotidien des sages-femmes. Vous avez dû en voir donc plusieurs. Comment vous définiriez le lien, notamment dans cette attente qui est très longue, entre vous, la future maman, et la sage-femme ?
Donc c'est ma deuxième grossesse et pour les deux grossesses, je trouve que vraiment les sages-femmes sont particulièrement gentilles, attentionnées, parlent toujours avec douceur. Donc vraiment, c'est une excellente relation.
Ouais. Le problème, c'est que souvent elles sont débordées, elles ne peuvent pas venir autant qu'elles le souhaiteraient. Vous, je veux dire, à chaque fois qu'elle toque, qu'elle arrive, c'est un moment que vous attendez, j'imagine.
Oui, alors là, 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette nuit où les sages-femmes nous l'ont dit qu'elles étaient en sous-effectif et on les entendait s'en plaindre. Il y en a une qui m'a dit qu'elles étaient que 2 pour tout Port-Royal. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en avait une pour les femmes en train d'accoucher et une pour les femmes qui avaient déjà accouché, je crois, un truc comme ça. Donc ça m'a un peu choquée. Et voilà, je comprends le mouvement, du coup.
Ouais. Mais vous réussissez à rester sereine ? Tout va bien se passer.
Ouais. Ce qui n'est pas facile, c'est que du coup, je leur ai dit que je comprenais parfaitement qu'elles sont en sous-effectif. Elle m'a dit oui, du coup, on ne peut pas vous faire de massage et tout ça. Mais le problème, c'est que les maris ne peuvent pas non plus rentrer quand on est aux urgences. Donc on est vraiment seul. Donc oui, la nuit, c'était un peu dur. Elles n'étaient pas très loin, mais c'est vrai que d'avoir ni sage-femme ni son mari... Ça, c'était un petit peu embêtant. Ça fait, ça cumule Covid plus sous-effectif.
Et là, ça va un peu mieux, là.
Oui, là, bah, apparemment, ouais. Apparemment, selon Alix, la sage-femme qui me suit, là, c'est plutôt cool. Elle m'a même fait un petit café.
Le grand luxe. Elle est super, non, Alix ?
Elle est géniale. Hyper pédagogue. Toujours dans la discussion, par rapport à mon premier accouchement, je me suis sentie beaucoup plus écoutée et beaucoup plus à l'aise de poser des questions. Donc elle est particulièrement bien, oui, c'est vrai. J'ai de la chance.
Merci beaucoup. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors vous êtes sage-femme juste à côté de là où on est depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes sage-femme aux urgences. Concrètement, qu'est-ce qui change avec les sages-femmes de salle de naissance ?
Alors du coup, aux urgences, en fait, alors globalement, on est 6 sages-femmes au niveau de la salle de naissance et au niveau des urgences. Ensuite, tous les jours, on se sépare. Donc il y en a 4 qui vont en salle de naissance, 2 aux urgences, mais ça tourne tous les jours. Aux urgences, du coup, on est amené à prendre en charge toutes les patientes qui vont venir sur des consultations d'urgence, soit des patientes qui vont venir parce qu'elles se mettent en travail, soit des patientes qui ont rompu, que ce soit à terme ou de manière prématurée. Enfin, globalement, toutes les consultations qui peuvent amener aux urgences quand on est enceinte. Après, on peut aussi être amené à prendre en charge, du coup, des transferts d'autres maternités quand il y a besoin d'une surveillance particulière en grossesse pathologique ici.
Et puis, c'est vous qui accueillez les femmes qui viennent pour accoucher aussi. Elles passent par les urgences.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
Ce qui veut dire que, comme vous êtes aux urgences, vous avez aussi beaucoup de mauvaises nouvelles, pour être clair. Il va y avoir les fausses couches, ça passe par vous, les IMG, toutes ces choses-là. J'imagine que c'est aussi très important, là, d'être en nombre suffisant, vous, les sages-femmes, pour offrir le meilleur accompagnement dans ces situations dramatiques.
Oui, c'est sûr. C'est vrai que du coup, on est deux sages-femmes aux urgences. Que bon, bah là aujourd'hui, c'est plutôt calme, mais c'est vrai que des fois, on est débordé et que bon, on n'a pas le temps suffisant pour faire du mieux qu'on peut avec les patientes, en tout cas, et pouvoir les prendre en charge le mieux possible, surtout au niveau psychologique. Quoi.
Vous préférez la salle de naissance ou urgence ?
Moi, personnellement, je préfère la salle de naissance, ouais. Parce qu'on les accompagne du début à la fin et les urgences, c'est plus un passage, entre guillemets, où bah, voilà, on décide de ce qu'on fait. Soit elles sont hospitalisées, soit elles vont en salle de naissance, soit elles rentrent chez elles. On les voit pendant un petit laps de temps. Quoi.
Vous disiez que parfois, d'autres maternités vont vous appeler pour faire des transferts. C'est typiquement le cas. Là, il y a eu un appel tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ?
Oui, du coup, c'est une maternité de type 2B qui va nous transférer une patiente qui a une complication de la grossesse, une préclampsie.
Une maternité de type 3, ce qui est donc le cas ici. Comment ça va se passer là quand elle va arriver? Tout est prêt? Vous avez déjà tout préparé?
Et ben, quand elle arrive, on la voit, on fait comme une consultation classique d'urgence. Et ensuite, on décide soit elle va être hospitalisée en grossesse pathologique, on la surveille à ce niveau-là, soit elle nécessite une surveillance encore plus accrue, et dans ce cas-là, elle va directement en salle de naissance. Et puis voilà, si jamais son bébé est amené à naître plus tôt parce qu'elle a une complication de la grossesse, il sera pris en charge par les pédiatres.
Comme aujourd'hui, c'est une journée qui est calme, il y a peu d'accouchements. Du coup, pour vous, ça vous laisse plus de temps pour l'accompagnement. Est-ce qu'on n'est pas là dans ce que devraient être toutes les journées dans les maternités? Ça y ressemble aujourd'hui?
Ah oui, c'est sûr que c'est plus agréable et c'est plus sympathique de pouvoir prendre du temps avec les patientes, leur expliquer vraiment toute la prise en charge, répondre à leurs questions et prendre du temps, tout simplement.
Merci Mélissa. Alors nous voilà actuellement, il est à peu près 15h, au niveau du poste de soins. Le poste de soins, c'est un peu le, comment on pourrait dire, le centre névralgique de la maternité. Déjà physiquement c'est au centre, tout autour il y a les différentes chambres, la salle de naissance. Et puis c'est aussi là que se réunissent très régulièrement les sages-femmes, les infirmières, c'est là qu'elles remplissent les dossiers, c'est là qu'il y a tous les capteurs, les écrans, enfin, etc. Je n'ai pas les termes, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est aussi où il y a des petits bruits. Aujourd'hui, journée à part, journée particulière, parce que ça fait des semaines, voire des mois, que ça n'a pas été aussi calme à la maternité de Port-Royal. Donc, deux manières de voir les choses. Soit c'est une bonne nouvelle, parce que nous, ça nous permet de bien échanger avec tout le monde, de bien parler avec les sages-femmes de leurs conditions de travail. Mais par ailleurs, elles disent « Ouais, mais attendez, n'allez pas croire que c'est tous les jours comme ça. » Alors, on sait très bien que ce n'est pas tous les jours comme ça, mais on va plutôt en profiter. Comment ça se passe quand on a un petit peu de temps comme ça? Devant nous, on a des écrans avec... Il y a quoi devant nous, si vous pouvez...
Le monitoring, du coup, c'est tous les rythmes des bébés qu'on a là. Donc là, nous, on en a 5 parce qu'on a 5 patientes en travail. Donc on surveille les rythmes cardiaques, les contractions. Voilà. Donc dès qu'il y a des anomalies du rythme, voire une bradycardie, bah, ça nous permet d'aller intervenir rapidement, voire d'aller dans une chambre qui n'est pas notre patiente parce que notre collègue n'est pas disponible, ça sonne et on y va.
Et alors Raphaël, moi j'imagine, ça doit être l'angoisse, non, quand d'un coup il y en a plusieurs qui s'allument en même temps et que vous n'êtes pas assez nombreux. Et ces situations d'urgence vitales en fait.
Voilà, exactement. Bah, on est toujours suspendu à ces rythmes-là qui ne préviennent pas quand ils se dégradent. Et c'est sûr qu'on peut pas être partout à la fois et qu'une urgence, c'est une urgence. Donc il faut y être. Après, ici, on a la chance d'avoir des collègues médecins disponibles en un claquement de doigts. Donc évidemment que si nous, on était dépassés, on peut complètement appeler les médecins qui arrivent très vite, quoi.
Pour vous épauler, moi, je suis vraiment nul. Hein. Je veux dire, j'ai pas du tout fait médecine, tout ça. Donc 137, c'est le rythme cardiaque du bébé ?
Ouais.
D'accord.
Et... En fait, là, cette ligne-là, c'est le rythme du bébé. Qui doit être à peu près entre 110 et 180. Et là, c'est les contractions. Donc là, vous voyez, hop, toutes les petites vagues, c'est les contractions maternelles.
De plus en plus importantes, non, les contractions? Non, pas forcément.
Alors, on voit juste quand,
gentil.
Quand elles se rapprochent, quoi. Mais voilà, là, par exemple, mon autre patiente, il y en a un peu plus.
Voilà. Bonjour.
Bonjour, Cyrielle François. Je suis sage-femme, je suis collègue de Raphaël, je travaille ici depuis 5 ans. On est dans une société où les femmes ont de plus en plus envie d'être accompagnées. On a ici également aussi une salle nature donc qui demande beaucoup d'investissement de la part du couple, de la préparation, etc. Mais du coup, la sage-femme aussi doit être beaucoup plus présente. Et c'est vrai que, comme disait Raphaël, quand on a 3 et que notre quatrième patiente, c'est une patiente qui souhaite une salle nature, on ne peut pas l'accompagner comme on le souhaite. C'est impossible.
Et alors, c'est vrai qu'il y a, par exemple, on entend de plus en plus de témoignages sur les violences obstétricales qui portent pas toujours bien leur nom, etc. Mais en tout cas, des femmes qui vont raconter des accouchements qui se passent pas comme elles l'espéraient, etc. Ça sous-entendrait justement du personnel en plus pour aller contre ça, pour avoir plus de temps. Et c'est tout l'inverse qui se produit en ce moment.
Exactement. De toute façon, je pense qu'une base du problème, c'est le manque de personnel. Nous, voilà, avec 13 salles de naissance et 4 sages-femmes, c'est clairement pas possible. Là, comme vous le dites aujourd'hui, c'est un cas exceptionnel. Donc, on est plutôt tranquille. On a le temps d'accompagner les femmes.
Ça, c'est parce que c'est le début de la journée. Mais je sens que dans 2 heures, d'un coup, tout le monde...
Ça, c'est possible. On sait jamais comment ça finit. Mais oui, en effet, enfin, il faut plus de personnel, c'est sûr.
Anna Roy, qui est donc la sage-femme de l'émission La Maison des Maternelles, nous a déjà beaucoup raconté rentrer chez elle le soir en se disant « Aujourd'hui, j'ai maltraité des femmes ». Alors, quand elle disait maltraiter, c'était évidemment pas volontaire, etc. Mais elle avait l'impression de pas bien faire son métier. Ça vous arrive, vous ?
Oui, évidemment. Quand on s'occupe, par exemple, d'une patiente qui vient, par exemple, pour une interruption médicale de grossesse, donc qui demande encore plus de temps, plus d'accompagnement, et qu'on lui dit « On revient dans 5 minutes et qu'on revient dans 2 heures parce qu'on n'a pas eu le temps », et qu'on laisse la patiente et le couple tout seul dans la chambre à attendre, c'est horrible. Et nous, travailler comme ça, c'est vraiment très difficile de pas pouvoir être là, de pas pouvoir les accompagner. Alors ça, c'est une situation qui est difficile de base, mais même pour une patiente qui vient accoucher et que tout se passe bien, on a envie d'être là, on a envie d'être présente et de pouvoir l'accompagner. Il y a 2 à 3 enfants par femme, c'est des moments qui sont uniques dans leur vie, et nous, on a envie d'être là pour elle à ce moment-là.
Ça fait 5 ans que vous êtes ici, c'est ça ?
Oui, exactement.
Vous êtes déjà posé la question d'arrêter ? Les autres n'écoutaient pas les collègues.
Oui, évidemment.
Ouais, c'est
vrai. Ouais. D'arrêter soit le métier de sage-femme ou de quitter la maternité, oui.
Et qu'est-ce qui vous fait rester ? Parce que c'est quand même le plus beau métier du monde, ou alors c'est un cliché qu'ont les gens qui font pas ce métier ?
C'est un beau métier, mais qui est difficile. Ouais, c'est un beau métier vu de l'extérieur. D'accoucher, c'est toujours un moment qui est important, qui est émouvant, mais qui est difficile quand même. Et j'ai oublié le reste de la question.
Non, mais c'était ça. pour l'instant, vous continuez. Et je me tourne vers...
Bonjour.
Alix Goutet, vous êtes également donc sage-femme ici. Alors, on profite, on a de la chance. Il n'y a pas encore trop de mamans qui accouchent, donc on en discute. Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qui a été dit ? Il y a à la fois, en fait, dans le mouvement des sages-femmes aujourd'hui, il y a à la fois la question de la rémunération, la question du statut des sages-femmes, la question de la reconnaissance et la question des moyens. Est-ce que vous pensez que cette manifestation, elle est assez entendue ? Est-ce que vous pensez que les choses sont en train d'évoluer ? Ou vous voyez aucun changement ?
Ah non, pas du tout. Il n'y a aucun changement. Et d'ailleurs... Depuis la grève la semaine dernière, moi je suis en totale désillusion par rapport à mon métier. C'est un métier vraiment que j'adore, j'ai toujours eu cette vocation, mais là vraiment je me dis, on se bat, on sort dans la rue, on se fait entendre et personne parle de nous. Franchement, regarder le JT de 20h le jeudi soir et voir qu'il n'y a pas un mot sur les sages-femmes, pareil dans le lendemain sur les principales chaînes de télévision, c'est difficile parce qu'on essaye de faire parler de nous et on n'y arrive pas. Pourtant, on prend en charge quand même des femmes. Alors oui, on est des femmes qui s'occupent des femmes, donc probablement que ça intéresse pas les gens. Mais nous, on voudrait que ça les intéresse.
Bon, il y a la maison des maternelles qui en parle, mais...
mais... Évidemment, évidemment.
Vous êtes là. Alors, on en vient, c'est quand même le vrai sujet. Certains disent que si c'était les hommes qui accouchaient, les sages-femmes seraient payées 5 000 balles par mois et dans des conditions optimales. Est-ce qu'il y a un peu de ça ?
Bah oui, c'est évident. Je ne veux pas faire de comparaison, mais il y a qu'à voir les dentistes où c'est quand même une quasiment beaucoup d'hommes. Bah eux, ils ont obtenu. Je remets pas en cause ce qu'ils ont obtenu, mais ils ont obtenu un salaire à la hauteur de leurs études et de leurs compétences. Et ben nous, on a les mêmes études et alors on fait pas la même chose, mais on a des compétences médicales comme eux et à la fin les grilles salariales sont incomparables. Donc, oui.
Donc en fait, pour que tout change, ça vient de décisions politiques. En fait, je veux dire, il faut qu'il y ait une vraie décision. Et alors, on a quand même l'impression que les choses, elles évoluent un petit peu dans la société, sur l'égalité homme-femme, sur la parité, etc. Ça se ressent pas encore, même pas du tout ici.
Ça va pas jusqu'à la maternité, j'ai l'impression. Ouais, voilà, ça prend du temps, mais j'espère vraiment, parce que d'ailleurs, sinon on va toutes partir à un moment, j'espère vraiment que ça va bouger, parce que c'est pas possible, mais même pour les patientes. Enfin, là, moi, on est allé voir le film à la vie il y a 2 jours, là. Et j'en discutais avec une collègue en sortant, parce que Chantal Birman dit dans le film qu'on pose des péridurales aux patientes parce que ça nous arrange. Et j'en parle avec une collègue en sortant en lui disant ça me dérange un peu de dire ça et tout. Et en fait, on en a discuté. Et le soir, je suis rentrée chez moi, j'avais presque envie de pleurer. Je me disais mais si, mais en fait, c'est vrai. Enfin, oui, c'est parce qu'on n'a pas le temps de les accompagner. Oui, les patientes, elles ont mal et elles réclament une péridurale. Mais si on était H24 avec elles, à leur faire des massages, à leur tenir la main, à leur dire que ça allait aller, elles arriveraient à tenir. Et en fait,
Ça, c'est le métier tel que vous l'aviez fantasmé, celui où vous pouvez rester, donner la main, lui masser le dos, lui mettre de la musique si elle veut, faire en sorte qu'elle n'ait pas la péridurale si elle veut. Et dans les faits, c'est pas possible.
Dans les faits, c'est même impossible. Enfin, pourtant, moi, j'adore les accouchements en sa nature, les accouchements physiologiques. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais quand on a le temps, parce que là, quand il y a une patiente en sa nature qui passe, alors aujourd'hui, c'est différent, mais quand il y a une patiente en sa nature qui passe, c'est presque, on se bat pour ne pas l'avoir. Alors que c'est le cœur de notre métier, quoi. Vraiment, la dame qui accouche de manière physiologique, c'est l'essence même de notre métier. Et en fait, maintenant, on veut plus faire ça parce qu'on n'a plus le temps.
En fait, on sait qu'on le fera mal, donc on n'a même pas envie de la prendre en charge. Donc, c'est à qui va à le moins de patientes en charge et va y aller. Mais c'est...
Après, là, aujourd'hui, justement, là, moi, ce matin, j'ai pu vraiment passer du temps avec ma patiente, la rassurer, prendre le temps pour l'examiner et tout. Et d'ailleurs, du coup, il y a eu un bon feeling avec le couple, ça se passe bien, et enfin, c'est génial, quoi. Et de travailler dans ces conditions-là, c'est génial. Et là, je me dis, notre métier, il est là, en fait.
Bon, Raphaël, aujourd'hui, puisqu'il y a un peu moins de monde que d'habitude, qu'est-ce que vous avez le temps de faire aujourd'hui que habituellement vous n'avez pas forcément le temps de faire avec vos patientes?
Alors, ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui, enfin pour l'instant en tout cas, c'est notamment de l'accompagnement général. C'est-à-dire que là, j'ai le temps de rassurer ma patiente, de lui expliquer vraiment tout dans les détails de ce qu'on va mettre en place avec elle, de recueillir ses stress à elle, de parler de son projet de naissance par exemple, et d'être plus présente pour son conjoint ou sa conjointe également, ce qui est également très important.
Donc régulièrement, vous pouvez aller la voir pour la changer de côté, etc., ce que parfois vous ne pouvez pas faire.
Tout à fait, exactement. Là, c'est quelque chose qui est essentiel pour le déroulé du travail, que malheureusement, parfois, on laisse en plan par manque de temps et parce que c'est pas l'urgence. Et on a le temps de le mettre en place et c'est parfait.
Eh bien, on y va.
C'est parti.
Super.
Ça va? Ouais. Alors, hop, on fait comme tout à l'heure. Du coup, on se remet un peu à plat. On va vérifier le col. Tac. Votre bébé, toujours en pleine forme. Rien à dire, il est d'accord avec tout ce qu'on
fait.
Hop, super. Alors, monsieur, il est responsable de l'ambiance.
Mais c'est la meilleure ambiance de toutes les salles de naissance.
Ah bien sûr. Je vous couvre, vous inquiétez pas. Ça va pour vous comme ça?
Ouais.
Top, super. C'est parti. Bon, les contractions, c'est un petit peu mieux.
D'accord.
C'est encore un peu anarchique, mais elles se sont rapprochées. Je ne sais pas si vous les sentez mieux. Bon, écoutez, votre péridurale est bien efficace. C'est vous qui me dites quand vous êtes prête. Ouais, on y va? Ça marche. Je vous avoue que je suis assez étonnée que ça ait si bien bougé depuis tout à l'heure avec des contractions aussi anarchiques. Hein, donc je pense qu'il faut qu'on se donne le petit coup de pouce dont je vous parlais.
Ah,
aussi possible. Ouais, tout à fait. Attendez, j'attends juste de voir avec la contraction ce que ça donne. Peut-être qu'on va se laisser encore un petit peu de temps, parce que là, j'ai l'impression qu'elle commence à se rapprocher. Je vais vous montrer sur le rythme après, par rapport à tout à l'heure. Ouais. Non, c'est pas mal du tout, en fait. Hein. Très bien, il est motivé, cet enfant. Hop, ça, c'est bon. On avait vidé la vessie tout à l'heure déjà. Je vous replace comme ça va? Et alors, on se dit qu'on se met à droite, du coup, là, on essaye, on va voir si on arrive à bien le capter ou pas. Hop, super. Ça va comme ça pour vous?
Oui.
Vous voulez qu'on baisse un peu le dossier ou ça va? Tac, c'est super. Et là, j'ai l'impression qu'on le capte super bien.
Oui, c'est
top.
Bon,
ouais. Ah,
super. Vous
voyez, parfois, il est d'accord avec nous. Hein.
Bah oui, c'est quand il
veut. Et par contre, les contractions, elles se sont fait la malle.
Ouais.
Voilà, super. C'est tout bon pour vous?
Oui, c'est tout
bon. La sonnette pour m'appeler, la ponce de péri. Ah vous voyez, là il est 40.
Ouais.
Et il y a la dose.
Oui, je m'entends.
Voilà,
ouais.
Comme ça vous savez, si à un moment vous hésitez à appuyer et que ça arrive,
pour
ne le faites pas.
Je me garde les munitions pour le moment.
Vous avez raison.
Ouais.
On refait le point dans une heure.
D'accord.
Okay. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez, toutes les bosses ici, c'est les contractions. Donc, vous voyez, là, on voit qu'elles sont un peu plus régulières. Elles sont toujours au même espace.
Ouais.
Parfois, il y en a deux qui se couplent.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode dans la maternité Port-Royal, où je dois dire on a été bien accueillis. Donc, Raphaël, merci. Merci déjà pour l'accueil.
Merci à vous de nous rendre visibles.
Faisons un petit peu peut-être le bilan, non pas de la journée, mais disons que l'évolution des choses. Nous, ce qui nous a frappé, c'est que déjà, j'ai l'impression, très bonne ambiance entre vous, ce qui est déjà important.
Oui, la plupart de notre équipe, on est devenus des amis, en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, quand même.
Est-ce que ce n'est pas un point commun dans ces métiers qui sont quand même très intenses, vous passez par des émotions très fortes? Ça arrive souvent, ça, des liens si forts?
Oui, ça arrive souvent, et je pense que c'est assez nécessaire aussi pour bien travailler ensemble, surtout quand on a des conditions difficiles.
Bon, on l'a dit toute la journée, hein, ça n'a pas changé. C'était une journée très cool. Donc, c'est bien. Hein, comme ça. Il faut aussi de temps en temps savoir se reposer. Ça nous a permis, nous, de bien échanger ensemble. Donc, merci. Vous en êtes où, vous, dans votre réflexion sur votre avenir professionnel dans ce métier de sage-femme?
Alors, moi, ça fait que 5 ans que je suis diplômée. Donc, moi, j'ai toujours la vocation en moi. Et justement, comme c'est ma vocation, que c'est pas juste un travail alimentaire ou quoi, j'ai envie de me battre jusqu'au bout pour que nos conditions changent et qu'on puisse l'exercer dans les meilleures conditions possibles.
La chose qui devrait changer, selon vous, l'urgence absolue, c'est quoi ?
L'urgence absolue, notamment depuis cet été, c'est les effectifs. Mais ce qui découle de cette urgence-là, c'est qu'il faut être attractif. Et du coup, il faut qu'on ait un salaire qui soit simplement adapté à notre niveau d'études, notre niveau de responsabilité et notre savoir.
Si des étudiants de sage-femme nous écoutent, et je suis sûr que c'est le cas, comment leur faire surtout pas changer de voie malgré tout ce qu'on a dit? C'est-à-dire que les choses étaient difficiles, etc. Comment leur faire dire « t'as raison, ça reste un super bon choix » ?
Alors moi, je leur assure qu'elles ne s'ennuieront jamais dans leur vie et qu'elles vivront des moments très intenses, certes, mais aussi très beaux et assez uniques. On a beaucoup de chance d'exercer ce métier. Puis on est dans un mouvement pour que leurs conditions futures, à elles aussi, soient les meilleures possibles.
Et alors, c'est peut-être ma dernière question. Vous êtes toutes jeunes, les sages-femmes, ici. Ça veut dire que quand... Non, c'est pas le cas?
Non, vous êtes tombés un jour. On est une équipe assez jeune, mais on a aussi nos précieuses sages-femmes très expérimentées aussi, qui sont d'ailleurs dans d'autres services là en ce moment même. Et on a besoin de leur expérience à elles aussi, parce que c'est un métier dans lequel on continue toujours d'apprendre. Et elles ont une bouteille qu'il faut absolument garder, quoi.
Bon, Raphaël, on va revenir vous voir, hein, si vous êtes d'accord. Déjà parce qu'on a été bien accueillis, on a bien mangé, bu du bon café, merci beaucoup, on a eu le temps. Et puis on va suivre, évidemment. À bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, merci encore infiniment à toutes celles et tous ceux, même si je réfléchis, attendez, c'était surtout toutes celles, qui nous ont si bien accueillis avec Irina Pascal et Charlotte Finet pour la maison des maternelles à la maternité Port-Royal. Merci donc en particulier à Raphaël et Alix qui nous ont fait vraiment une visite guidée et nous ont permis de travailler dans d'excellentes conditions. Donc merci à elles et merci à l'APHP pour l'autorisation. Voilà pour les remerciements. Non, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de remercier Alexandre Ferreira qui a fait un boulot exceptionnel, réussi à faire tout ce montage en très peu de temps. Bravo Alexandre. Surtout que Alexandre, je vous le donne en mille juste pour vous, les auditeurs de ce podcast. Eh ben, il est à nouveau papa depuis quelques jours et il a accepté de faire une toute petite pause dans son congé paternité pour monter cet épisode. Merci beaucoup Alexandre, je sais que c'est un sujet qui lui est cher aussi, donc il l'a fait pendant son congé pat. Merci Alexandre, c'est bon, tu peux tout couper. Tu peux de nouveau aller pouponner Joachim, que l'on embrasse. Merci à toutes celles et ceux de P2L et de France Télévisions qui nous permettent de mettre en place ce podcast. Dans 15 jours, un nouvel épisode inédit, puis bien sûr, on se retrouve dès lundi sur France 2 et avant, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde !